Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour marcher vers le bien-être. J'espère que vous allez bien. Je vous propose cette semaine de poursuivre notre exploration des bienfaits de la marche par le biais de messages du Nouvel An. C'est que durant le temps des fêtes, j'ai reçu trois merveilleux textes de la part d'une grande amie de Radio-VM et de notre émission, Christine Angelard. Bien que Christine voulait ainsi souhaiter la bonne année à ses amis, patients et connaissances, je considère ses vœux à ce point intemporels et universels que j'ai voulu en partager l'essence avec les auditeurs de Marcher vers le bien-être. Je me suis donc rendu chez elle pour qu'elle nous raconte à sa façon comment la marche peut nous aider à ralentir, à prendre du recul par rapport à nos émotions et à mieux gérer notre mental et les conséquences d'une vie parfois stressante dans un monde qui semble parfois avoir perdu ses repères. J'ai rapporté de ma visite une conversation teintée d'espoir et d'humour qui, je crois, vous incitera à prendre le temps de reprendre la route qui mène vers la sérénité et la paix intérieure. En ce sens, vous trouverez sur notre site et celui de Christine les trois textes et les références musicales entendues au cours de l'émission. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne réflexion. Alors, bonjour Christine et merci de nous accueillir chez vous pour cette autre conversation portant sur les bienfaits de la marche.
Bonjour Denis et merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir de venir à votre émission.
Nous allons nous entretenir aujourd'hui d'un texte que vous avez rédigé et qui a justement mené à cette entrevue. Mais auparavant, j'aimerais que vous nous rappeliez votre parcours professionnel dans le monde de la santé et du bien-être. Et surtout, comment cela a-t-il débuté?
Oh, il y a très très longtemps. Cela a débuté très jeune. J'ai su que ma vocation était d'être thérapeute, d'être médecin. Donc effectivement, je fais ce qu'il faut pour. Je m'inscris à l'université et j'ai à Toulouse, en France, l'université de médecine, après un concours redoutable que j'ai eu la chance, la grâce et le courage d'obtenir. Donc, je fais mes études de médecine en France, à Toulouse, avec l'immense chance, ça je m'en rends compte un petit peu plus tard, de rencontrer des professeurs, on appelait ça des patrons à l'époque, des professeurs de médecine un peu particuliers et qui ont vraiment laissé une empreinte sur ma façon de voir la santé et la médecine. Donc, je suis diplômée d'un doctorat en médecine de Toulouse, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai aussi un défaut, une qualité, ça dépend comment on l'utilise, c'est la curiosité.
Ah, c'est une qualité.
Alors, si bien utilisé, je pense, je suis d'accord avec vous, Denis, c'est une qualité. C'est-à-dire, je me dis, bon, c'est très joli, maintenant je sais tout, je vais pouvoir soigner tout le monde, mais quand même, je vais voir un peu ce que sont que ces médecines complémentaires. Et un petit peu le nez en l'air, hein, puisque lorsqu'on a fini cette année d'études de médecine, plus tous les stages qui vont avec, on sait tout. Enfin, on pense qu'on sait tout. Donc, je me suis inscrite aux formations en médecine complémentaire à Paris, en France, pour lesquelles il fallait d'abord avoir son doctorat en médecine avant de s'inscrire. Donc, je fais une formation de naturopathie et homéopathie et une formation en médecine traditionnelle chinoise. Et là, ça change considérablement ma vision de la santé et je m'aperçois surtout que je ne sais pas tout. Et Dieu merci, je ne sais toujours pas tout. Donc voilà, je fais ces formations et là, j'envisage la médecine et l'abord du patient d'une autre façon. Et puis en même temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans ma vie en même temps, puis quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, je suis les cours de Annick de Souzenel, la symbolique du corps humain, qui est cette grande dame qui a vraiment écrit sur la symbolique du corps humain et qui nous initie à la spiritualité dans la santé, en quelque sorte. Et de Jean-Yves Leloup. Voilà. Donc, mes grands maîtres, c'est bien sûr mes professeurs de médecine classique. Ma formation en naturopathie et médecine chinoise, surtout. La médecine chinoise m'a véritablement ouvert les yeux sur la santé et sur ce qu'était être en santé. Et ce qui était aussi le rôle du thérapeute. Et puis, Madame de Souzenel, Jean-Yves Leloup et mes patients. Voilà, tout ce monde-là ont fait qui je suis aujourd'hui.
Et votre curiosité vous a mené à écrire des livres.
Ah ben oui, je suis bavarde aussi. Donc, mes patients m'ont poussé. C'est vraiment eux qui m'ont dit, Madame Angelard, vous nous racontez plein de choses en consultation, mais on aimerait bien que vous les écriviez. Donc, puis j'aime écrire. Donc, oui, j'ai écrit plusieurs livres, effectivement.
Sur plusieurs sujets.
Le premier s'appelle « La médecine soigne, l'amour guérit », qui a été postfacé par Jean-Yves Leloup, d'ailleurs. « La médecine soigne, l'amour guérit », il y a longtemps, j'ai écrit ce livre-là. Et puis ensuite, j'en ai écrit d'autres plus pratico-pratiques, hein, qui s'appellent « Va vers toi-même » ou « L'importance de se remettre en marche
oui, »,
donc,
oui.
Dont on a déjà parlé. Voyage en pays d'intériorité, puisque ça, c'était une façon de proposer à mes patients un voyage en pays d'intériorité ou une méditation. Mais comme je disais à l'époque, si je parle de méditation, il y a la moitié qui va partir en courant, et si je parle de prière, l'autre moitié va partir en courant. Donc j'ai trouvé une formule qui s'appelle « Voyage en pays d'intériorité ». Et puis un livre pratico-pratique, Les essentiels pour le corps et pour l'âme. Là, c'est vraiment un petit dictionnaire de petites pathologies à prévenir et éventuellement à soulager. Et si ça ne fonctionne pas, on consulte son médecin, bien évidemment, rapidement. Mais c'est plutôt de la prévention à base de produits naturels, dont les huiles essentielles, la naturopathie. Et puis, mon avant-dernier, j'espère, puisqu'il y en a un sur le feu en ce moment, en écriture, l'avant-dernier, c'est la gratitude qui guérit. Voilà.
Vous aimez donc communiquer, vous aimez écrire, parler, vous faites aussi des présentations.
Oui, je donne des ateliers. Au mois de septembre 2025, je pars en principe avec un groupe dans le sud de la France pour partager ces notions de santé du corps et de l'âme. Je donne des ateliers une ou deux fois par an au Spaceman, toujours sur cette notion de santé du corps et de l'âme, cette union qui me paraît évidente pour moi, mais qui l'est pas toujours. Donc, de nos émotions, de notre spiritualité et de notre corps, et tout interagit l'un avec l'autre.
Donc, vous aimez écrire, et j'en reviens à votre texte que vous avez intitulé « Ne pas en rajouter ». Vous l'avez partagé à l'occasion du Nouvel An, mais je crois qu'il demeure constamment d'actualité. Et bien que vous y brossiez un tableau un peu sombre de l'état du monde actuel, vous proposez une voie vers un monde meilleur, notamment, évidemment, grâce à la marche. Alors, j'en fais la lecture à l'instant. Donc le titre, « Ne pas en rajouter ». Prédiction alarmiste, climat, société, politique, santé, économie, etc., etc. Un peu partout fleurissent les Cassandres, annonçant à qui mieux, encore plus de difficultés pour l'année à venir. Alors si oui, nous vivons une période de bouleversements multiples, essayons d'envisager cela comme les contractions d'une nouvelle naissance, plutôt que comme les signes avant-coureurs d'un chaos effroyable. Il ne s'agit pas d'être dans le déni des difficultés multiples que les peuples vivent actuellement un peu partout sur la planète, voire chez nous, tout proche, mais bien de ne pas en rajouter avec notre mental. Car nos pensées sont des énergies qui viennent s'ajouter aux énergies ambiantes. À force d'attendre la catastrophe, nous risquons fort de l'aider à se réaliser. Les médias sont assez bons pour cela. En cette fin de l'année, je vous propose de faire attention à nos pensées et d'essayer de n'émettre que des pensées de joie et de gratitude. Essayons au moins. Voir ce qui va bien et continuer à travailler à dépasser nos peurs, nos blessures. Cela en prend toute une vie, mais cela vaut la peine. Je sais que pour certains d'entre nous qui sont au cœur d'une violente souffrance physique ou morale, cela n'est pas facile, voire impossible. Et c'est bien compréhensible. Mais pour tous les autres qui avons la chance de ne pas être trop mal lotis, essayons d'envoyer des ondes positives autour de nous, chaque fois que nous le pouvons. Cela n'est pas du temps perdu, je vous assure, car nous sommes tous interreliés. Pour notre bien-être et le bien-être de tous, nous avons notre part à faire. L'énergie imprime la matière. Alors soyons vigilants à ce que nous émettons comme pensée. Et n'oubliez pas le pouvoir de la gratitude. Nous allons, Christine, revenir à la gratitude un peu plus tard, mais parlons d'abord de ce message. Je le disais d'entrée de jeu, votre texte est somme toute assez sombre, mais en même temps, je crois qu'il nous invite à créer un monde meilleur, individuellement et collectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à rédiger et surtout à partager ce texte?
Alors, voilà, j'ai des inspirations comme ça que je partage sur mon site et j'ai eu, et ce qui m'a surprise, c'est le nombre de retours très positifs que j'ai eu à ce petit texte qui m'est venu un peu comme ça un matin. Parce que, en début d'année, nous avons tous les pronostiqueurs, que ce soit des médiums, des voyants, des économistes, des politiques, qui nous disent ce qui va se passer. Et c'est pas très positif. Et puis, sans être un grand devin, on voit bien qu'actuellement, la planète vit quand même pas mal de soubresauts, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les choses vont pas très très bien dans tous les domaines. Au moins, c'est simple, c'est dans tous les domaines. Alors, effectivement, on a deux choix. On a le choix de rester assis et de se dire, mon Dieu, c'est une catastrophe, ça va pas aller, ça peut pas aller bien. Avec ses politiques, avec ceci, avec cela, c'est affreux, c'est voilà. Alors là, on s'enferme et on s'enferme. Et surtout, on émet une énergie toxique. Alors déjà pour nous, mais aussi pour notre entourage. Alors je dis pas que c'est facile, et je dis bien que et je le partage aussi pour partager justement, parce que je suis pas meilleure que les autres. Quand il m'arrive des choses difficiles, je saute pas de joie tout de suite. Je suis pas bien. Et j'essaie de pas y rester. Voilà. Parce que ce qui est mortifère, c'est de rester dans l'enfermement qui est quand même la racine du mot enfer. L'enfer, c'est ça, c'est rester enfermé dans son mental. Et si nous sommes tous en train de ruminer notre mal-être, ça va augmenter l'énergie de malaise et de mal-être à la surface de ma cellule, de mon corps, de ma famille, de la ville, de mon quartier, de la ville, de la planète, etc., etc. On sait maintenant que nos pensées ont un impact sur notre physiologie. L'énergie, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui existe, qu'on peut pratiquement chiffrer. Le champ électromagnétique d'une personne, ça se mesure. Donc, la façon dont je me comporte, je dis pas d'être toujours, il s'agit pas d'être dans le déni, hein, ça c'est très important. Il y a eu, à un moment donné, cette mode de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, j'adore tout le monde et j'aime tout le monde. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses que j'aime pas, il y a des gens avec qui je me sens mal à l'aise. Donc, il s'agit pas d'être dans le déni, mais de faire attention à ne pas rester dans ça va mal. J'ai connu quelqu'un qui me disait, ça va pas, ça peut pas aller, ça n'ira pas. Là, déjà, on part mal.
Absolument.
Et puis mes patients m'ont éduqué aussi. Moi, c'est ma nature, j'en parle dans le livre La Gratitude. Je l'ai hérité de mes parents. Cette façon d'arriver à voir le soleil qui va percer au-dessus des nuages. Il y a des jours, je l'ai pas vu, je suis d'accord, je le concède. Mais je sais que le soleil est au-dessus des nuages. Voilà. Et donc, c'est important. Et alors, ce qui m'a surprise, comme je vous disais, c'est les retours. J'ai l'impression que ça tombait à pic.
Il y a besoin.
On en a tous besoin. On en a tous besoin. Moi, la première.
Il y a vécu.
Le fait de partager aussi et d'entendre tous ces gens. Et alors, ce qui est touchant, c'est que, bien sûr, mon site internet, mes patients le lisent. Enfin, bien sûr, c'est pas obligé, mais disons que je sais qu'il y a beaucoup de patients qui me suivent, j'aime pas l'expression, mais plutôt qui me lisent sur mon site internet. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des amis, des patients, enfin des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je n'ai jamais rencontrés en consultation, qui m'ont écrit là, ces jours-ci, pour me remercier de ce texte. Donc je dis,
Il y a une corde sensible.
Il y a une corde sensible et on a besoin de se soutenir là-dedans. Je me souviens d'une patiente qui malheureusement n'est plus de ce monde maintenant, qui a vécu au Liban la guerre, la vraie guerre du Liban, là, dans les années 70-80, et même 90, enfin le Liban a toujours été en guerre depuis des années, et qui arrivait un jour de pluie, et je lui ouvre la porte et je lui dis « Oh là là, rentrez vite, il fait un temps épouvantable ». Et elle me dit « Non, il pleut, c'est tout, il pleut ». Et elle me dit « Épouvantable, c'est pas ça ». Et là, elle me raconte d'où elle vient. Vous savez, les leçons, moi, je les reçois de mes patients, souvent.
Oui. Ben, dites-moi, Christine, ce tout va mal sur la planète, pour ainsi dire, encore là...
C'est pas nouveau.
C'est ce que les médias nous rapportent aussi, et surtout, ce n'est pas nouveau, mais il y a une pression qui s'exerce sur la vie quotidienne. Il y a des modes de vie malsains, conflictuels, qui peuvent être la source de maladies aussi.
Il y a l'enfermement. On a vécu là, les dernières années des périodes plutôt difficiles où les gens ont dû... ou ont été obligés de rester chez eux, confinés, enfermés. Et ça a laissé des cicatrices épouvantables. Savoir que les gens ne veulent plus sortir pratiquement de chez eux, ou sortent le minimum. Moi, je connais pas mal de gens, et des jeunes, qui préfèrent travailler de chez eux que d'aller à leur travail. Donc oui, les habitudes de vie sont pas très bonnes, on va dire, dans ces années 2020 et en suivant. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que la planète va mal à intervalles réguliers. Ce sont des cycles. C'était pas mieux avant. Il y a eu des périodes. Les gens vous disent, c'était mieux avant. Avant, il y avait pas les capacités de soins qu'on a maintenant, même si elles sont loin d'être idéales. Il y avait pas de machine à laver. Il y avait pas d'ascenseur. Il y avait pas de moissonneuse-batteuse. C'était pas mieux avant. Avant, il y avait d'autres problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Voilà. Alors, dans ce contexte, avec cet arrière-plan, la marche à la rescousse. Alors, nous avons parlé de ces malaises au niveau de la planète, au niveau de l'individu. La marche peut aider. De quelle façon ?
Oui, parce que justement, elle va nous sortir de notre enfermement, déjà. Elle va nous mettre en mouvement. Et nous sommes des êtres de relation et des êtres faits pour le mouvement. Nous ne sommes pas des êtres pour rester assis 20 heures par jour derrière un écran. Donc déjà, elle va nous ralentir, elle va nous faire sortir, respirer, s'oxygéner, et c'est quand même vital de s'oxygéner. Oui. Elle va aussi, en ralentissant notre rythme, nous faire prendre un certain recul par rapport à nos émotions. On rumine, on ressasse, on est là en train de ruminer. Moi, je appelle ça la rumination intellectuelle. Lorsqu'on se met en mouvement, cette rumination va tout doucement s'estomper. Mm-hmm. Mais c'est physiologique. C'est vraiment physiologique. Pourquoi ? Parce que nos muscles se mettent en mouvement, c'est le cas de le dire. Hein, et nos muscles appartiennent à l'énergie du foie, qui va être foie et vésicule biliaire, en médecine chinoise. Hein, donc ça va drainer cette colère, ça va drainer cette impatience, ça va nous faire prendre du recul. Ça va aussi nous remettre en contact avec la nature. On parle bien sûr de marche en nature et pas pas sur les Champs-Élysées pour les Parisiens ou sur la rue Saint-Denis à Montréal. On parle d'une vraie marche. Donc ça va nous relier à la nature et nous rappeler notre véritable position dans la nature. Nous sommes tous interreliés, mais nous sommes reliés aussi à Mère Nature. Elle nous redresse la marche aussi. Elle nous permet de gagner notre véritable dimension et de prendre ce fameux recul, de nous oxygéner. Et après 2 heures de marche, on se sent mieux physiquement. Ça, c'est certain. Les muscles ont travaillé, on s'est oxygéné, le cerveau fonctionne mieux. D'accord. Mais on se sent mieux aussi émotionnellement et spirituellement. On se sent plus grand, en fait. On se sent plus grand. Alors qu'on a ralenti. Et on est à une époque où il faut aller vite. Donc c'est ça le paradoxe intéressant.
Et c'est ce qui nous permet justement de prendre ce recul, de composer avec les situations externes et internes.
Et même plus, moi je suis pas la seule à le dire, on a été nombreuses à écrire sur la marche, le fait de marcher pendant 2 heures, donc le foie est drainé, hein, si je reparle de la médecine chinoise, mais si le foie est drainé, automatiquement l'énergie du cœur circule mieux. Et comme par hasard, c'est l'énergie du cœur qui va nourrir l'énergie du mental. C'est-à-dire qu'après 2 heures de marche, je peux avoir, et je vais avoir des idées que je n'aurais pas eues si j'étais restée assise pendant 3 heures à mon bureau. Donc les bonnes idées, elles arrivent au cours d'une marche. Pas uniquement, mais
souvent.
En tout cas, on revient beaucoup mieux qu'on était lorsqu'on est parti.
Vous parlez souvent de marche méditative.
Oui.
C'est ça.
Moi, j'appelle la marche... Alors, il y a différents types de marches. On peut marcher en famille, avec ses amis, etc. Mais la marche seule, dans un environnement agréable, on part. Voilà. Et puis, on a notre cerveau qui travaille à 10 000 tours toujours. Puis, tout d'un coup, il ralentit, il n'est plus qu'à 8 000. Et puis, il va baisser.
Heureusement.
Et j'appelle ça une méditation en mouvement. Parce que la méditation, c'est retrouver le calme intérieur. C'est retrouver l'espace lumineux qui est en chacun de nous. Et lorsqu'on marche véritablement, on peut atteindre très souvent cet espace de paix qui est à l'intérieur de nous. Donc, on peut l'avoir en méditant dans une église, dans une chapelle, dans un temple bouddhique, mais on peut l'avoir dans la nature.
Mmh. Voilà. Et la méditation nous porte à l'action, éventuellement, c'est ça?
Oui, parce qu'on est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en forme, on y voit plus clair. Et si on y voit plus clair, on va poser des actes plus justes, en principe.
Oui. Nous allons prendre une pause musicale un peu différente, Christine. Vous nous avez suggéré Mozart. Pourquoi? Oui. D'où vient cette idée de Mozart? Et quelle pièce allez-vous suggérer pour la pause musicale?
Ah, Mozart, c'est, je suis pas la seule. Je vais citer un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Eric Emmanuel Schmidt et je pense ne pas être la seule à l'apprécier, qui dit Bach est la musique que Dieu écrit, Mozart est la musique que Dieu écoute. Et Beethoven est la musique qui dit à Dieu de prendre des vacances. Donc, Mozart, j'adore. Monsieur Schmidt a des formules extraordinaires. Mozart, je l'ai découvert quand j'étais jeune fille.
Mais c'était particulier la façon dont vous avez découvert Mozart.
Ben, j'ai découvert la musique classique grâce à une émission de radio.
En France.
Oui. Qui s'appelait Radioscopie avec Jacques Chancel et qui, comme vous, faisait choisir des morceaux de musique à ses invités. Et c'est comme ça que je me suis initiée à la musique classique et notamment à Mozart. Et pour mes 17 ans, voilà, vous allez tout savoir, hein, les auditeurs vont tout savoir. Pour mes 17 ans, je veux m'acheter un 33 tours. À l'époque, nous avions des 33 tours. Et je vais dans un magasin de disques qui n'existe plus, évidemment. Et je choisis un 33 tours. Alors je savais que je voulais la musique classique et Mozart, j'étais sûre de pas me tromper avec Mozart, mais lequel morceau je ne savais pas. Et j'ai choisi un 33 tours sur la pochette duquel était en gros plan un monsieur que je trouvais très beau. Et manifestement, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était Neville Mariner qui conduisait l'orchestre Saint-Martin on the Fields.
Oui.
Donc c'était un choix excellent. Comme quoi, la naïveté, des fois, nous conduit au bon endroit. Voilà, vous savez tout sur Mozart et sur ce concerto 21.
Alors, et c'est le deuxième mouvement?
Le deuxième, tout le concerto est magnifique, ça c'est clair, mais le deuxième mouvement, c'est une petite initiation au paradis. Là, on a l'impression d'arriver au paradis.
Alors, nous écoutons. Thank you. Nous sommes de retour avec Christine Angelard. Nous parlons de marche, bien entendu. Une marche qui se veut peut-être antidépresseur. Voilà.
Absolument.
Alors, vous allez nous raconter, et j'adore l'histoire, en fait, c'est une anecdote où vous avez rencontré Antonine Maillet qui vous a parlé de deux grenouilles.
Oui, c'était il y a quelques années. C'était au Salon du Livre pour un dîner d'auteur et Antonine Maillet est venue nous parler. Et elle nous a raconté l'histoire des deux grenouilles. Alors, ce sont deux grenouilles, chacune tombant respectivement dans un pot de lait. Et il y en a une qui se lamente. « Oh, c'est affreux, au secours, on va mourir, c'est épouvantable, on va pas s'en sortir, mon Dieu. » Et on n'entend plus rien. Et l'autre pot de lait, on n'entend rien non plus, sauf qu'au matin, on retrouve la grenouille au-dessus d'une motte de beurre. Donc, ça illustre bien, c'est pas nouveau hein, ce que nous disons là, ça illustre bien qu'il y a des situations où tout semble épouvantable et il n'y a pas d'issue. Alors, j'ai le choix de me noyer, là, c'est le cas de la grenouille.
De me laisser faire.
Plus que me laisser faire, je dirais, c'est d'en rajouter avec mon mental.
D'en rajouter, voilà.
C'est ça qui me pervers, je dirais même, psychologiquement parlant. C'est affreux, j'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive? Enfin bon, on connaît tous ces formules-là. Et il y a des gens qui sont très doués pour ça, et ça, il faut couper. Ça, il faut couper parce que, bon, ok, ça va pas, d'accord, on fait quoi avec? On va chercher de l'aile, on trouve par miracle et par grâce. Et la grâce arrive si j'arrête de me lamenter. Parce que lorsque je continue à me lamenter, en médecine chinoise, on est dans rat de pancréas qui vient être surstimulé et qui va épuiser nos surrénales, donc nos capacités à nous défendre. Sur un plan pratico-pratique et physique, c'est ça. Et donc, effectivement, ça. Et j'avoue que je fais partie plutôt de la deuxième catégorie de grenouilles. je me suis trouvée dans des pots de lait, moi aussi. Hein, et il a fallu que je me débatte.
Tel que, vous avez quelques exemples.
La vie,
ce que la vie nous amène.
Oui, ce que la vie nous amène. Oui. Il y a eu l'inondation. La dernière, c'était l'inondation de ma maison. Et j'ai commencé à faire comme la première grenouille. Oh, c'est épouvantable, je vais jamais pouvoir travailler. Et j'ai eu autour de moi des gens qui m'ont dit, bon, écoute, c'est du matériel, il y a des assurances, allez. Et voilà. Et puis, ce qui m'aide aussi et ce qui est vital pour moi, c'est ma foi. C'est-à-dire que, et je parle de spiritualité, pas de religion. C'est-à-dire, je demande de l'aide à plus grand que moi. Voilà. Je demande l'aide aux humains, ça on en a bien besoin, et on est très content d'avoir des assurances par rapport au pays où il y a des tsunamis, des drames écologiques, et ces gens-là n'ont pas d'assurance, donc nous on n'a pas à se plaindre, même si les assurances on n'est pas très content quand même d'ailleurs avec elles, mais c'est pas grave, on est quand même très content de les avoir. Donc on a tendance à être la première grenouille. Essayons d'avoir autour de nous, en nous, des personnes, des ressources qui vont nous faire traverser pour être la deuxième grenouille et se retrouver au-dessus d'une motte de beurre. C'est vraiment ça. Donc, c'est toute une attitude à cultiver. J'ai eu la chance, la grâce de la recevoir, comme je le dis dans mon bouquin, dans mon code génétique. C'est certain.
Oui,
mes parents n'ont pas eu une vie facile. Mes grands-parents ont eu une vie très difficile. Mes arrière-grands-parents ont eu une vie épouvantablement difficile. Donc, voilà, moi je suis celle pour qui tout va très bien et tout est fluide. Non, pas vraiment, mais vu dans l'échelle du temps, oui.
C'est ça.
Vu dans l'échelle du temps, oui. Déjà, je suis une femme qui a pu conduire et qui peut travailler. Ça a l'air évident en 2025, mais enfin pour ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, ça n'était pas.
Absolument.
Qui a pu signer des chèques. Je suis pas sûre que ma mère au départ pouvait signer des chèques. Donc voilà, quand on dit c'était mieux avant, non, c'est pas mieux avant. Il y a toujours eu des difficultés, il y a toujours eu des drames.
Il y en aura toujours.
Et il y en aura toujours. Ce qui est magnifique, c'est de faire agir la compassion, l'entraide. Nous sommes des êtres de relation. Seuls, nous ne pouvons rien. Donc l'entraide humaine. Et puis, quand on parlait des bienfaits de la marche va nous redonner la joie originelle. Puisque nous sommes des êtres, au départ, porteur de joie. Souvent, là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une amie, et je lui dis, n'oublie pas qui tu es. Nous sommes des êtres de lumière, au départ. Alors oui, la vie se charge de nous mettre des tas d'enveloppes, comme les oignons, là, de couches, de mémoire, de souffrance. Et notre chemin de vie consiste à enlever ces couches d'oignons pour retrouver cette lumière. Et la marche est l'outil le plus simple, le plus économique et le plus efficace qui va nous amener vers cette lumière. C'est évident. Et de toute façon, tous ceux qui pratiquent la marche, c'est unanime, hein. Il n'y a pas de discussion, si j'ose dire.
C'est ça, oui. Et parmi vos clients, vos patients, vous avez des exemples de deuxième grenouille, si vous voulez.
Deuxième grenouille, j'ai peut-être Olivier, que j'ai remis en marche, si j'ose dire. Olivier, c'était un patient qui avait un poste très important, numéro 2 dans une très grande entreprise, qui était marié, qui a toujours, Dieu merci, ses enfants, qui est toujours marié, qui a toujours un très haut poste. Et quand il vient me voir, cet homme-là, et qui est très, très croyant et très religieux, puisqu'il va à la messe tous les dimanches, et pour lui, c'est très important et c'est très bien. Et il vient voir parce qu'il est dépressif et qu'il ne tolère pas l'idée d'être dépressif en me disant « Je comprends pas, Madame Angelard, j'ai un bon métier, je gagne beaucoup d'argent, j'ai une belle maison, j'ai une femme qui m'aime, j'ai des enfants, je prie tous les jours et j'ai tout pour être heureux. Et avec ça, je suis dépressif, c'est pas normal, je m'en veux. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, parce que déjà, ça parle, Olivier, ça doit faire 15 ans que je l'ai vu, et il y a 15 ans, c'était pas mieux dans le monde.
Hein. » Donc, il y a le monde et il y a le dépressif.
Voilà. Donc, je lui explique, alors je l'écoute évidemment, j'ai dû lui donner certainement des produits en naturopathie, mais je lui dis, Olivier, remettez, est-ce que vous avez toujours Olivier en vous, ou est-ce que vous êtes le fils de... Ah oui, parce qu'il s'était marié avec la femme que sa mère lui avait présentée, donc il a été un bon fils, il a un bon mari, il est un bon père, il est un bon professionnel. Et je lui dis, Olivier, il est où là-dedans? Et là, évidemment, il ne sait pas trop quoi me répondre. Et donc, je lui dis, pour retrouver Olivier, il faut que vous mettiez en marche. Il m'a fallu 3 consultations pour qu'il se décide à marcher. Et j'ai eu cette formule qui est quand même très osée. Et j'en suis désolée, mais ça a été efficace. Je lui ai dit, Olivier, si vous ne mettez pas en marche, là, vous laissez votre voiture tous les jours et vous terminez à pied. Et tous les jours, vous allez marcher 1 heure. Si vous ne faites pas ça, vous commettez un péché. Alors, je suis désolée pour les autorités religieuses, je n'ai aucune légitimité pour dire ça, mais ça a fonctionné.
Voilà.
Et comme par hasard, Olivier s'est mis à marcher, Olivier s'est mis à se sentir mieux. Olivier, un jour, est arrivé en me disant, c'est drôle, j'ai l'impression qu'au travail, les gens sont plus souriants. En fait, ils avaient toujours été souriants, mais ils ne les voyaient pas. Et là, il s'est mis à les voir et à retrouver la joie en lui.
Il suscitait aussi les sourires,
c'est ça? Et aussi, il suscitait, absolument.
Oui, voilà. Oui. Donc, vous parlez de joie, encore une fois.
Ah ben, il a retrouvé la joie. Il est reparti en France, ce monsieur. C'était un expatrié. Et en fait, il m'avait remercié de façon dithyrambique. Et moi, j'ai l'impression d'avoir très peu fait. Je l'ai juste poussé à marcher. Mm-hmm. Certes, les médicaments, les compléments, ce n'est pas des médicaments. Puisqu'au Québec, je travaille comme naturopathe et thérapeute en santé globale. Donc, je travaille comme naturopathe. Les formules que je lui ai prescrites, ce sont des compléments alimentaires, ça l'a aidé. Mais ce qui l'a surtout aidé, c'est de se remettre en marche, ça c'est évident.
Mmh. Et vous avez eu des nouvelles depuis?
Oui, bien
c'est
sûr.
Ça, tout
oui,
va
oui.
bien.
Il va bien, ils sont, oui, avec sa famille, ils sont je crois, en Bretagne. Tout va bien.
Donc...
Non, il a repris même certaines activités qu'il avait quand il était jeune et qu'il avait arrêté parce qu'on lui disait que c'était dangereux.
Ah bon,
voilà.
Oui.
Donc, j'ai de bonnes nouvelles, non.
C'est la marche. La marche, quand même, l'a remise en marche.
Ah oui.
C'est ça.
La marche nous redresse et nous remet en... Et je dis toujours, quand quelqu'un est dépressif autour de vous, et c'est vraiment le cas d'Olivier, ne pas lui dire qu'il a tout pour être heureux. Il me l'exprimait très bien, ce monsieur. Il me disait, voilà, je gagne de l'argent, j'ai des beaux enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Il habitait Outremont à Montréal. Bon. Et il n'était pas heureux. Donc, ils le savent qu'ils ont tout pour être heureux. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas bien, qui rumine, allez le voir et dites-lui, accompagne-moi. Allez, viens, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Et vous partez faire le tour du pâté de maison, voire le tour de la ville.
Oui.
Vous partez marcher 1 heure au moins avec lui. Et vous lui demandez de vous accompagner. C'est pas vous qui lui donnez un traitement, parce qu'ils refusent en général qu'on les aide, ces gens-là. On est fiers, on veut pas.
Belle astuce.
Donc, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Tu viens avec moi. Et on marche.
Et petit à petit.
Et puis, comme par hasard, il va nous dire des choses qu'il ne disait pas avant. La parole se libère en marchant. La parole se libère aussi en marchant. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants, tout bêtement. Quand ma fille était allée faire ses études supérieures à Louis-le-Grand à Paris, moi, j'habitais dans le sud de la France. Je montais, comme on disait à l'époque, je montais à Paris la voir. Et on était logés chez sa grand-mère, qui était absolument adorable. On était très bien, mais on prenait de temps en temps des grandes marches que toutes les deux. Mmh. Et là, j'ai appris plein de choses sur ce qui lui est arrivé, que j'aurais dû savoir et que je ne savais pas.
Oui.
Du coup, quand je suis redescendue ensuite à Cannes, parce que j'habitais Cannes à l'époque, j'ai fait la même chose avec avec mon deuxième fils, qui était adolescent, qui avait une quinzaine d'années à l'époque, et Bertrand. De temps en temps, je disais, bon, allez, on s'en va, viens, on va aller manger une pizza, sauf qu'on allait manger la pizza à l'autre bout de la ville. et en marchant, j'ai appris plein de choses.
C'est parfois des choses qu'on n'ose pas dire.
Qu'on n'ose pas dire, ou... Mais c'est pas là, les enfants, en couple, avec vos amis, avec Jean-Yves Leloup, lorsque nous avons travaillé ensemble, naïvement, moi je pensais qu'on allait se mettre chacun d'un côté d'un bureau avec nos papiers et voir qui allait commencer la présentation, parce que j'ai fait des ateliers avec Jean-Yves Leloup. Qui allait commencer la présentation? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc j'étais, je me disais, mais comment on va faire? Puis j'osais pas. Moi j'étais hyper intimidée. Et bien avec Jean-Yves Leloup, nous marchons. Nous marchons des heures, on parle, et il me dit, non, mais je te fais confiance, je sais que tu as préparé ta partie, moi j'ai préparé la mienne, mais pendant les deux heures pendant lesquelles on marche, il se passe des choses.
De quoi?
Ah, du sujet, mais plein d'autres choses aussi. Et ça me mettait, je pense que j'étais hyper intimidée, vous imaginez, moi j'étais toute jeune, moyennement jeune, mais j'avais strictement rien écrit encore, et je venais faire des ateliers avec monsieur Jean-Yves Leloup au Québec. C'était l'Himalaya pour moi. Et il a fait fondre les neiges de l'Himalaya, très bien.
Très belle image, Christine.
Et on a pu parler d'égal à égal. Oui. Voilà, et ça s'est très bien passé pour l'atelier.
Nous allons prendre dans quelques instants une autre pause musicale. Et cette fois, vous avez une autre musique à nous suggérer.
Tout Bach. Ça va faire un peu long, je pense, pour la pause, mais bah, l'adagio du concerto en dé mineur de Jean-Sébastien Bach, je crois que ça dure 4 minutes et quelques. C'est un temps de méditation, interprété par un jeune pianiste islandais qui me pardonne, je ne me souviens pas de son nom, j'ai un peu de mal avec les noms islandais, mais c'est c'est le Glenn Gould du 21e siècle. C'est un morceau magique, voilà.
Alors, nous écoutons. Nous sommes de retour avec Christine Angelard. Christine, nous avons bien médité avec M. Bach.
C'est un maître.
Oui. Alors, nous allons parler maintenant de prévention, de marche et prévention, parce que la marche fait quand même partie de la prévention. Et j'aimerais vous entendre parler du concept de la prévention.
Et oui, la prévention, c'est la première médecine. Et c'est ce vers quoi la médecine devrait, je ne sais plus quel temps il faut employer, mettre l'accent, ce qui n'est pas toujours évident actuellement. Mais ça revient aussi à chaque individu. C'est aussi la responsabilité de chacun de faire attention à son temple. Le temple de l'âme, c'est le corps. Ce véhicule, on nous l'a donné, on essaie d'en prendre soin jusqu'à sa date d'expiration. Alors, il y a différents outils. La prévention, il y en a un qui est très simple. Monsieur Hippocrate en a déjà parlé il y a très très longtemps, c'est l'alimentation. Que ton alimentation soit ta première médecine, c'est ce qu'il disait. Donc l'alimentation, c'est évident que de bien manger, ça conditionne énormément notre santé. Le sommeil est vital.
On l'oublie souvent,
surtout aujourd'hui. Capital. Ouais. Et c'est capital de dormir suffisamment, sinon on épuise notre système nerveux. Et lorsqu'il est épuisé, il craque, donc ça fait burn-out, ça fait dépression, ça fait maladie. Donc l'alimentation, le sommeil, l'exercice, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des êtres de mouvement. Et le premier exercice qui est évident, qui est souple, qui est facile, c'est la marche. Et la marche nous amène, je dirais, au quatrième pilier, qui est celui de la joie. Parce que lorsque j'ai marché 2 heures, je me sens mieux. Je connecte un peu cette joie, cette lumière en moi. La joie et la gratitude d'être vivant. En fait, marcher 2 heures, c'est ce qui est dit dans un film qui s'appelle La Belle Verte. Lorsqu'on a marché 2 heures en montagne, on réfléchit mieux après, on se sent mieux. Et on arrive à remercier pour ce qui est. Ce qu'on oublie dans notre société moderne, et qu'on oubliait aussi il y a très longtemps, c'est que rien ne nous est dû, tout est don. Et lorsque je me mets en marche, et après avoir marché 2 heures en nature, j'ai fait du bien à mon corps, c'est évident, mais c'est le moyen le plus rapide et le plus sûr de nous faire recontacter cette joie. Alors il y en a d'autres, il y a la méditation bien évidemment, il y a la lecture, il y a l'écoute de la musique. La musique classique nous amène à retrouver cette joie. Donc dans la prévention, je dirais l'alimentation, le sommeil, la marche, la gratitude qui nous mène à retrouver cet état de joie. Mais en fait, ce serait intéressant d'en reparler plus longuement, parce qu'il y a de quoi dire beaucoup sur ces 4 piliers de la santé. Alors après, évidemment, ça n'empêche pas d'aller voir son médecin à intervalles réguliers, ou son naturopathe, ou son acupuncteur, ou son ostéopathe. Mais ces 4 piliers-là, nous en sommes responsables. Je suis responsable de ce que je mange, je suis responsable de mon sommeil, je suis responsable de décider de marcher tous les jours, et de réaliser ce que j'ai plutôt que de voir ce que je n'ai pas. Nous avons tous des manques. On a tous perdu des êtres aimés, on a tous perdu des choses auxquelles on tenait, on a tous perdu notre jeunesse. Et nous allons vers l'âge mûr. Et effectivement, mais nous l'avons été, mais maintenant, cet âge mûr, cette vieillesse, comment je la vis? Est-ce que je la vis en pleurant sur ce que je n'ai plus ou en regardant ce que j'ai encore? Ce que disait Talleyrand, lorsque je m'examine, je m'inquiète. Et lorsque je me compare, je me rassure. Bon, l'humour. L'humour, c'est la joie, c'est l'énergie du cœur. En fait, l'alimentation, le sommeil, la marche, le cœur, il y aurait beaucoup à en dire.
C'est un mode de vie, c'est une attitude.
C'est une attitude de vie.
Oui.
C'est une attitude de vie humaniste aussi. Et la musique, là, je rejoins aussi M. Schmitt, mais je ne suis pas la seule d'ailleurs. La musique nous amène au silence. Vous allez, enfin, ce qu'on vient d'entendre là, nous conduit au silence. Mais au silence habité, pas le silence de la solitude perdue au fond d'un bois. C'est pas la même chose. Et en fait, ces 4 piliers redonnent la véritable dimension à l'humain. Alors oui, on a besoin de médicaments, on a besoin de chirurgiens, parce que quand il y a une pièce qui va pas, il faut réparer. Mais l'humain, avec un H majuscule, il appartient pas au médecin. Hein. L'humain, il m'appartient. Mon humain, mon humanité à moi. C'est affreux comme formule, mais j'insiste justement là-dessus. C'est-à-dire que comment prendre soin de mon humanité? En prenant soin de ma carcasse, certainement, mais en nourrissant mon intériorité. Et lorsque je marche en nature, je nourris mon intériorité. Lorsque j'écoute du Bach, du Mozart, du Beethoven, du Chopin, du Shostakovich ou autre, je nourris mon humanité. Et ça appartient à tout un chacun.
Et la marche nous amène à réfléchir à ce mode de vie qu'il faudrait entretenir, faire soi.
La marche nous fait toucher du doigt ou du pied comme on veut. L'importance, justement, de ce mode de vie. Parce qu'on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt?
Oui.
Pourquoi je ne marche pas tous les jours au lieu de marcher que trois fois par semaine? Et c'est vrai que certaines semaines, moi, je suis la première à dire que je n'arrive pas à marcher tous les jours. Le jeudi, c'est ma plus grosse journée de consultation. Et parfois, eh ben, je marche dans mon appartement. Donc, on ne peut pas appeler ça de la marche. Je m'en veux et je me dis que je vais rattraper, entre guillemets. Non, je n'aime pas dire rattraper parce que ce n'est pas une compétition. Ça aussi, c'est important. Hein. Il n'y a pas de compétition dans la marche. C'est le plaisir. C'est le plaisir de marcher en ayant les yeux, les oreilles ouverts. Et le cœur surtout ouvert. Et le cœur s'ouvre petit à petit. Au départ, c'est surtout le cerveau qui prend toute la place. Puis plus j'avance, plus le cerveau diminue, si j'ose dire. Et le cœur, lui, grandit. C'est cet équilibre que l'on retrouve dans la marche. Entre, et on a besoin de notre cerveau, hein, Dieu merci, entre mental et être, avec un E majuscule.
Parce que s'il faut changer notre style de vie, pour y incorporer un meilleur sommeil, l'alimentation, l'exercice, la joie et tout, il faut quand même y réfléchir. Il faut prendre du recul.
Il faut y goûter aussi.
Il faut y goûter, voilà.
Il faut y goûter. Ça paraît évident. Je préfère y goûter que réfléchir, parce que réfléchir, c'est encore mon mental qui veut. Bien sûr que mon mental, moi j'écris des tas de bouquins pour vous expliquer par A plus B tous les bienfaits de la marche. Donc je peux pas crier sur le mental. Et bien sûr qu'il faut y réfléchir. Mais ce que je disais que pour Olivier, le dépressif, il faut pas lui expliquer. Il faut lui prendre la main et lui dire accompagne-moi et on va marcher une heure. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Et là, il y goûte. Et comme par hasard, il va pas dire ah c'est formidable, je suis guéri. Non, non. Et peut-être qu'il va remarcher après par lui-même. Ça fait trois séances où je lui répète la même chose. Donc, c'est vraiment y goûter. Et avec les ados, avec les enfants, on ne va pas lui dire « Allez, viens, on va marcher pour que tu me parles de ce qui te perturbe. » Non. Bon, tu viens, Bertrand, tu viens, Florence, on disait pas on va prendre une marche en France. Tu viens, on va marcher. Mm-hmm. Voilà, on va marcher, on va prendre une marche, c'est pareil. Viens, j'ai besoin de toi. Au départ, on a besoin de l'autre.
C'est intéressant ce que vous dites.
Mais oui, parce qu'on a tous besoin d'ailleurs les uns des autres.
Oui.
Nous, on pense sauver l'autre, mais c'est souvent le patient qui sauve le thérapeute, des fois. Hein. Mm-hmm. Il y a ça aussi.
Ah, c'est intéressant aussi.
Et oui, on sauve personne. On accompagne, ça c'est tout le thème de mes livres, on ne sauve personne, on accompagne. Et on accompagne en marchant. Et comme par hasard, alors c'est écrit dans mon livre sur la marche, mais et puis dans tous mes autres livres, le fait de marcher, le mental se calme, le cœur s'ouvre et vient effectivement donner les bonnes intuitions, les muscles fonctionnent mieux, je m'oxygène, donc enfin, voilà, il y a des gens bien plus calés que moi qui ont écrit sur la marche et qui ont dit tous la même chose.
Mmh. C'est ce que vous avez remarqué dans votre pratique.
Tout à fait.
Oui.
Ah ben, je l'ai remarqué depuis toujours. Je l'ai remarqué en tant que jeune fille, je l'ai remarqué en tant que mère de famille, en tant que professionnelle de la santé, en tant que grand-mère. C'est ce que je fais avec mes petits-enfants aussi quand je vais en France. J'en ai trois en France et je leur consacre plein de moments. Quand je suis là-bas, je suis tout à eux. Mais je mets un point d'honneur à en prendre un et on part toute l'après-midi, on va marcher. Alors oui, on va aller faire des magasins aussi, c'est sûr. Mais on va quand même marcher seul avec Sylvestre.
À cœur ouvert.
Et voilà.
À cœur ouvert.
À cœur ouvert,
oui,
et seul. On n'est que deux. Il n'y a pas le frère, il n'y a pas la sœur, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman.
Il n'y a pas de jugement.
Non, on est dans l'écoute. Ça.
Oui.
Une grand-mère gâteau.
Formidable. Christine, je suis allé sur votre site et j'ai découvert un autre texte assez merveilleux. Ce sont vos souhaits du nouvel an 2025. Et je me dis, c'est quand même presque une prière ou une méditation matinale qu'on devrait se répéter tous les jours. Vous lisez dans votre texte, vous écrivez dans votre texte, « Je vous souhaite une bonne santé ». Puis je me disais, si on transformait ça et on disait « Je me souhaite une belle santé » tout au long. Je trouve ce texte tellement bon que j'aimerais beaucoup que vous le lisiez en onde.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vais m'essayer, comme on dit. Mais oui, c'est effectivement un texte qui m'est venu le matin. Donc, je l'ai partagé aussi sur mon site et j'ai eu aussi des bons retours. Alors, j'espère. En tout cas, je vous le lis avec beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité et pour chacun des auditeurs derrière le poste, comme on dit. Je vous souhaite une belle santé pour pouvoir apprécier la joie d'être vivant ici et maintenant. je vous souhaite la dérision nécessaire pour ne pas trop prendre au sérieux nos affaires et retrouver la distance que donne l'humour, indispensable ingrédient de tous les jours. Je vous souhaite le discernement pour élaguer l'inutile qui encombre tant nos maisons et nos vies et nous menace d'asphyxie. Je vous souhaite d'offrir un peu de vous-même pour découvrir la joie pure, précieuse et certaine du partage, de la pure gratuité, qui seule nous rend plus riches de ce qui a été donné. Je vous souhaite des amis sûrs et précieux qui sauront vous être proches sous tous les cieux et vous permettront ainsi d'expérimenter que la distance n'exclut en rien la proximité. Je vous souhaite de sortir des sentiers battus pour découvrir le tout autre, l'inconnu, et aussi apprendre encore de la vie, ses possibles, ses merveilles, ses infinis. Je vous souhaite des silences pour entendre le lumineux et l'immense qui, au creux de votre poitrine, attend son rendez-vous avec vous, patient. Je vous souhaite du vent, du soleil, de la pluie, pour faire croître toutes les graines enfouies dans nos cœurs, nos champs et nos terres, et ainsi nourrir bien nos enfants et nos frères. Je vous souhaite de perdre de temps en temps votre temps si précieux, lentement, pour mieux le goûter justement, et toucher ici à l'infini un instant. Je vous souhaite des regards d'enfants, des rires d'adolescents, le vol de quelques mésanges, et par eux entendre le chant des anges. Je vous souhaite la sainte paix, la joie, la curiosité, l'humour et la santé, pour encore un temps témoigner des talents qui vous ont été donnés. Bonne année.
Et bonne vie.
Et bonne vie. Longue vie. L'émerveillement aussi.
Vous signez Marguerite Voltaire.
Marguerite Voltaire. Oui, parce que pendant des années, j'ai écrit des petits textes poétiques, plus ou moins poétiques. Et j'avais pris un nom de plume, comme on dit, un peu de façon savante, et je m'appelais Marguerite Voltaire. Et Marguerite Voltaire, c'est Christine Angelard. Voilà. Et là, maintenant, j'assume mes deux côtés. Voilà.
Christine, il nous reste quelques minutes. J'aimerais que vous nous parliez de deux livres qui vous ont marqué, qui touchent l'espoir, la vie et, évidemment, la marche. Alors, on vous écoute. Le premier, Les yeux...
Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser, c'est un roman français qui a conquis le monde, il a été traduit, je crois, dans pas mal de langues. C'est une initiation à la beauté et à la vie en 52 chefs-d'œuvre. L'auteur s'appelle Thomas Schlesser. C'est un livre magnifique, c'est l'histoire d'une petite fille qui va perdre vraisemblablement la vue et que son grand-père emmène tous les mercredis après-midi visiter, voir, regarder. Intégrer une œuvre d'art. Donc, ils s'en vont au Louvre, ça se passe à Paris, ils s'en vont au Louvre, au Musée d'Orsay, à Beaubourg, enfin dans tous les lieux où on peut voir de très beaux tableaux. Et c'est... Donc, ils marchent tous les deux. Et surtout, cette initiation à la beauté, prendre le temps de regarder un chef-d'œuvre, parce qu'au Louvre, je veux dire, on peut y passer sa vie.
Ce ne sont que des chefs-d'œuvre.
Ce ne sont que des chefs-d'œuvre. Donc, il choisit à chaque fois un chef-d'œuvre et il regarde, il reste un quart d'heure à minimum avec sa petite fille. Et c'est tout un dialogue entre le grand-père et la petite fille. Et c'est un livre magnifique sur, justement, quoi faire lorsque tout est, semble désespéré. Il reste encore l'espoir et l'espérance, il reste encore la beauté, il reste encore la capacité de s'émerveiller. C'est un livre magnifique, je vous le recommande. Enfin, je ne suis pas la seule à le recommander, il a eu beaucoup de succès. Les yeux de Mona.
Et le deuxième
Et
de
le deuxième,
c'est Monsieur
Erich Mandelschmidt, c'est un de mes auteurs contemporains préférés. Il y en a beaucoup, il y a La nuit de feu qui parle de sa marche dans le désert et de cette révélation qui va changer sa vie. Mais il y a un petit livre qui est moins connu, je crois, qui s'appelle Mes maîtres de bonheur, où Schmidt nous parle de sa vie avec Mozart, nous dit « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent », et qu'il nous parle des mystères de Bizet. En fait, il nous parle de l'importance de la musique et des musiciens qui nous aident à devenir meilleurs. Voilà. C'est un petit bijou, ces maîtres de bonheur d'Erich Emmanuel Schmidt. Mais il y en aurait beaucoup d'autres. Il y aurait Christian Bobin, il y a beaucoup de livres... Qui nous parle, mais les yeux de Mona sur justement la capacité à s'émerveiller et à ne pas prendre pour acquis que tout est définitivement fichu. L'espérance, c'est garder la petite lampe allumée. Il fait nuit, mais on a la lampe allumée. Et puis, voilà, on ne sait pas. Mais parfois, voilà, la lumière revient.
Christine, j'espère que vous allez revenir à l'émission.
Avec plaisir.
Jeter un peu de lumière.
Je suis très bavarde. C'est toujours un plaisir, merci.
Nous l'apprécions beaucoup. Avant de nous quitter, vous nous donnez votre adresse courriel et l'adresse du site pour consulter, en fait, les références, les livres, et ainsi de suite.
OK, alors mon site, c'est très simple, c'est www.christineangelard.com. Donc, c'est mon prénom et mon nom, tout attaché. Christineangelard.com, c'est là où vous retrouvez tous mes textes. Et puis mes prescriptions, si j'ose dire, de prévention un petit peu. Et puis pour m'écrire, c'est christine.angelard, ça s'écrit A-N-G-E-L-A-R-D, christine.angelard@gmail.com. Et je vous remercie beaucoup.
Et c'est nous qui vous remercions. Oui, au grand plaisir de vous revoir, Christine.
D'accord.
À bientôt.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier notre invitée, Christine Angelard. Merci également à notre savant technicien, Lysandre Duplé, pour son habile montage de notre reportage chez Christine Angelard. Et comme toujours, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de les télécharger. Je vous laisse cette semaine avec cette pensée d'Albert Schweitzer. La gratitude est le secret de la vie. L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il a pénétré le profond mystère de la vie. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.